France Culture.
Nous sommes allés en voiture à Częstochowa, la ville où je suis née. C'est une ville très particulière parce que c'est la ville du pape. C'est là où il y a la Vierge Noire et des millions de Polonais qui se rendent chaque année. Et puis nous avons été à Łódź. Et je crois que c'est en chemin qu'on s'est dit, mais qu'on a vu que c'était possible d'aller à Auschwitz. Et donc, on y est allé. Au fur et à mesure qu'on se rapprochait, on était encerclés par les lignes de chemin de fer. Tout d'un coup, il y avait des voies ferrées partout et qui convergeaient vers Auschwitz. Donc, j'ai répondu à votre question.
Auschwitz-Birkenau, le lieu témoin. De la mémoire polonaise à l'histoire européenne.
Le début de ce voyage, je ne sais où il me conduira, est absolument prosaïque, pure routine. Une conférence scientifique internationale en Pologne, en 1978, à laquelle je participais avec plusieurs Israéliens. Elle se tint sous les auspices du Comité international des sciences historiques, plus précisément de sa section d'histoire comparée des religions. Notre groupe se composait d'un médiéviste, d'un spécialiste de la Renaissance, de moi pour les temps modernes et d'un autre historien auquel les Polonais refusèrent l'entrée parce que, ancien citoyen polonais, il avait trahi la patrie en émigrant vers Israël. La conférence se déroula comme beaucoup de conférences. Les animateurs avaient ensuite organisé des déplacements vers les coins les plus reculés du pays, Cracovie, Lublin et autres lieux touristiques. Je dis à mes collègues que je ne les accompagnerai pas, mais suivrai une route personnelle pour aller visiter Auschwitz. Un juif visitant Auschwitz, bon, même si à l'époque ce n'était pas aussi à la mode qu'aujourd'hui. Un de mes collègues, le médiéviste que je connaissais depuis de longues années à travers notre domaine de recherche, me prévint. Vois-tu, quand tu iras à Auschwitz, ne va pas au camp principal, qui est une espèce de musée. Si tu y vas, va à Birkenau. C'est le vrai Auschwitz. Il ne demanda pas si j'avais le moindre lien avec l'endroit. S'il l'avait demandé, j'aurais répondu. Je n'aurais pas nié, mais il ne posa pas de questions. Je ne répondis pas et filai.
Deuxième partie. 1969-1989, un mémorial polonais et catholique.
Je fis appel à un taxi, un vieux taco, et demandai au chauffeur de me conduire à Auschwitz. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait le trajet. Il y avait déjà conduit des touristes étrangers. Véritable moulin à paroles, le chauffeur parla de sa voiture qui lui avait été volée puis restituée. Alors que nous roulions le long du fleuve, il évoqua la Wislazla, la mauvaise Vistule, qui déborde et inonde la campagne, emportant hommes et bétail. Nous empruntâmes des routes plus ou moins goudronnées, avec des nids de poules. Peu à peu, je cessai de répondre. Je cessai de suivre ce qu'il racontait. Je me laissais absorber par la route. Soudain, j'eus le sentiment d'avoir déjà été dans ces parages. Je connaissais les panneaux, les maisons. Certes, c'était un paysage différent, un paysage nocturne, hivernal, surtout cette première nuit. Et je compris une chose que je n'avais pas prévue. Je roulais en sens opposé sur la route qui, le 18 janvier et les jours qui suivirent, me fit sortir de ce complexe dont j'étais certain dont nous étions tous certains qu'on n'en revenait jamais.
Otto Dovkulka a été déporté à Auschwitz à 10 ans, avec sa mère. Il a publié « Paysages de la métropole de la mort » en 2013. À Birkenau, on suit la visite guidée. On marche le long des rails, on s'arrête devant le wagon, on s'arrête devant une bâtisse basse, on s'arrête devant un premier baraquement. Les chalits, le sol, les portes, le bois noirci des planches de ces granges sans fondation, qui n'étaient pas faites pour durer, et qu'il a fallu, qu'il faut toujours consolider, reconstruire, conserver, avec ce souci absurde, impossible, de donner à voir le camp de Birkenau en l'état, c'est-à-dire ni trop neuf, ni trop vieux, en l'état de sa macabre monotonie ponctuée de miradors et de bâtisses d'une géométrie élémentaire, accablante. On voudrait pouvoir errer sans personne autour, dans ce cimetière dont l'authenticité jaillissait peut-être des taillis, des herbes, de l'abandon où on l'avait laissé dans les années 1970, alors que le discours du musée se déployait dans la partie historique du camp, Auschwitz I, à quelques kilomètres de là. Depuis 1947, le musée d'Auschwitz est au service de la lutte antifasciste des communistes. Il est également l'incarnation du martyr polonais. 70 000 Polonais catholiques, des résistants, des intellectuels, des universitaires, des militaires y sont morts. Hors de ce discours, au début des années 1970, après la violente campagne antisémite qui a secoué la Pologne en 1968, un épais silence recouvre la vérité historique. C'est sur ce silence que va prospérer l'Église. À Auschwitz, cette force d'opposition politique va profiter de la confusion introduite par le pouvoir communiste qui, depuis la fin de la guerre, a fondu juifs, tziganes, résistants, opposants, prisonniers de toute nationalité, en une seule catégorie, les victimes. Pourtant, seuls les juifs et les tziganes ont été assassinés en famille, non comme opposants politiques, mais en application de la politique raciale des nazis. Rappeler ou énoncer cette vérité historique, c'est aussi interroger les rapports de la Pologne avec ses juifs, ou les rapports de l'Église avec les juifs.
C'est quelque chose qui me revient. En fait, j'étais à l'école primaire. Je me souviens très bien de ça. On nous a guidés vers Auschwitz, ou Oświęcim, comme on l'appelle en polonais. J'ai dû avoir peut-être 10 ans, 12 ans, je ne suis pas certain.
Jan Grabowski, historien.
C'était début des années 70. La seule chose que je me souviens de cette visite, c'est qu'on a joué au soccer. On a joué au foot. Avec un ballon qu'on a lancé contre les murs rouges des baraques. C'était différent comme aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'était pas un centre d'attention mondiale. Mais la seule chose que je me souviens de cette visite, c'est notre jeu au ballon dans Auschwitz, parce que personne n'en a dit, ou en fait, on n'a rien retenu. Donc, quand j'ai revisité à Auschwitz plusieurs années plus tard, c'était dans un climat différent. Mais en Pologne, c'était en fait, il n'y avait presque aucune dans le système scolaire, hein, même jusqu'à la fin de mon lycée. Il n'y avait presque un mot sur la Shoah, rien. Il y avait une tragédie de la nation polonaise qui a perdu 6 millions de ses citoyens. Et en fait, moi, j'ai appris juste par la suite que le camp d'extermination, ce n'était pas pour les Polonais, c'était pour les Juifs. C'était un genre de propagande très efficace qui a joué sur plusieurs fronts.
J'ai trouvé un article dans un journal catholique, mais catholicisme progressif, qui existe toujours, qui est vraiment un journal très très bien. Un article... une proposition comme ça.
Agnieszka Grozinska.
Qu'il faut peut-être raser tout à Auschwitz.
Auteur et traductrice.
Qu'il faut peut-être pas que ça existe, parce que ça fait justement penser à des choses tristes, alors que il faut vivre. Il vaut mieux que ce soit vraiment justement table rase. Et là, je ne sais pas, ça m'a tellement choqué que je suis allée. Pour la première fois, toute seule. Ça devait être en 11-12, parce que mon père n'était plus là. Et bien entendu, c'était un choc. Et je suis allée à Oświęcim, donc par train, par bus, je ne sais plus, par train, je crois, à la ville de Oświęcim. Et après, j'ai fait tous les trajets à Auschwitz et Birkenau à pied. J'ai passé toute la journée. Et je me souviens avoir passé beaucoup de temps dans les baraques, là où il y avait le bois des lits. C'est pas des lits, comment ça s'appelle ?
Des chalits.
Des chalits, voilà. Et j'ai remarqué que le bois était extrêmement poli, forcément, par les mains qui l'ont tenu, qui l'ont sans doute justement poli. Et ça m'a... J'ai passé longtemps à toucher ce bois, comme si je touchais les mains qui étaient là, des gens qui étaient là.
Nous arrivâmes à cette porte, la porte de briques rouges avec la tour sous laquelle passaient les trains. Je ne le savais que trop bien. Je le priais d'attendre sur le côté, à l'extérieur. Je ne voulais pas qu'il entre. C'était une journée d'été pluvieuse. Pas d'averse, non, mais un crachin irritant, envahissant, implacable, qui saturait l'air d'un mélange de brouillard et d'une visibilité humide, silencieuse, autant qu'un crachin irritant de cette espèce peut être silencieux. La voiture garée, je marchais le long de la voie, entre les rails où l'air poussait désormais, franchis la porte pour la seconde fois. Mais ce jour-là, à pied, sous ma propre buée. Je me dirigeais vers un endroit où j'étais sûr de me retrouver. Un des camps qui aurait dû être là, mais à la place du camp, d'horizon en horizon, il y avait des alignements. Forêts de cheminées de briques, vestiges des baraquements démantelés et disparus, et piliers de béton chancelants, chacun incliné dans un sens différent, avec de ci, de là, des lambeaux de barbelés rouillés. D'aucuns immobiles, d'autres qui rampaient dans l'herbe humide mouillée, d'horizon en horizon. Et le silence. Un silence écrasant. On n'entendait pas même ici le chant d'un oiseau. Il n'y avait là que mutisme et vide. L'étonnement que ces paysages qui avaient été si densément peuplés de gens, tels des fourmis, armés d'esclaves, files de gens qui suivaient leur chemin, fussent silencieux, fussent déserts. Mais tout était là. Il y avait la forêt de piliers de béton. On pouvait presque les voir fiers et droits, avec ces fils d'acier tendus, comme le jour où nous entrâmes, de nuit, comme dans cette nuit illuminée par le cortège de lumière glissant sur nos visages, au moment de la lente entrée du train dans ce couloir de lumière vers la métropole de la mort.
Bon, il faut que j'explique un tout petit peu l'histoire, mon histoire et puis l'histoire de la Pologne. Dans les années 70, il y a eu tout un mouvement d'opposition en Pologne, surtout avec le COR, c'est-à-dire le Comité de défense des ouvriers. Et dans ce mouvement, il y a eu beaucoup d'initiatives parallèles, culturelles, notamment, surtout éditorial, il y avait tout un circuit parallèle interdit, clandestin, d'édition des livres qui étaient censurés en Pologne, des traductions aussi. Et entre autres, une de ces initiatives autour de ce comité de défense des ouvriers, c'était les cours, bien sûr clandestins, dans les appartements, souvent dans les églises, qui à ce moment-là étaient vraiment aidaient beaucoup l'opposition, pour le dire, Et donc, c'était les cours sur les événements qui étaient soit tus, soit transformés par justement l'enseignement obligatoire, officiel.
Dans le silence imposé par les communistes, des questions, des oppositions commencent à se former. Le pays n'a pas oublié l'esprit de clandestinité des années de guerre. Des mouvements se structurent, soutenus par l'Église, puissante ennemie du régime. En 1978, le pape Jean-Paul II, premier pape polonais, lancera cette injonction lors de son premier discours place Saint-Pierre. N'ayez pas peur. Ouvrez les frontières des États, des systèmes politiques et économiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation et du développement. Ce sont grâce à ces forces qu'en 1980, le syndicat indépendant Solidarnosc ouvre dans la République populaire de Pologne une large brèche démocratique.
Justement, j'en reviens à ce cours clandestin. On parlait, par exemple, de ça. Et c'est là où peut-être mon cheminement par rapport à mon savoir sur les relations polono-juives a commencé, parce que justement, on parlait également de l'histoire des juifs polonais. C'était presque une révélation pour moi, parce que les juifs, ça, je ne savais pas que ça existait, quoi. Il y avait, bien sûr, Israël, dont on parlait très peu, et là aussi, c'était compliqué. Mais en Pologne, c'est les Polonais qui ont péri pendant la guerre. Et vraiment, cette histoire des juifs polonais ou des relations polono-juives, c'était quelque chose de complètement tabouisé. Et Auschwitz en polonais, enfin, c'est comme ça qu'on le prononce en Pologne, ça a dû apparaître justement pendant ces cours. Et c'est là où j'ai appris que quand même la plupart des victimes, c'était des victimes juives, même si elles habitaient la Pologne depuis des siècles, mais il fallait quand même, c'est la conscience qui m'est venue à ce moment-là, il fallait quand même faire cette différence entre les Polonais et les Juifs, alors que dans la propagande, l'idéologie communiste, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de race. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Donc, les prolétaires de tous les pays, réunissez-vous. Ça voulait dire qu'on est une seule masse prolétaire. Et c'est pas bien de distinguer justement, par exemple, les Polonais et les Juifs. C'était presque du racisme. C'était vraiment, je veux dire, dans l'éducation officielle, la propagande, etc.
Journée du souvenir aujourd'hui pour Jean-Paul II. Il se rendra cet après-midi dans les camps de concentration d'Auschwitz et de Birkenau, où il célébrera une messe à la mémoire des victimes du nazisme. Vous savez que le gouvernement polonais a laissé intact ces camps de concentration situés à une cinquantaine de kilomètres de Cracovie.
1979.
Ce matin, donc, Jean-Paul II est arrivé à Calvaria. Il s'est immédiatement rendu au couvent des Bernardins, un des hauts lieux de pèlerinage de la Pologne. Je crois qu'à l'heure qu'il est, Alain Ménargue, il est parti pour son village natal.
Et même termine sa visite actuellement, sa visite de Wadowice, son village natal. C'est un événement contraire à la tradition, et cela malgré l'opposition discrète du Vatican, mais maintenant le Vatican commence à être habitué au non-conformisme de Jean-Paul II. En ce moment, sur la place de l'Armée Rouge et de l'Amitié soviéto-polonaise, où se dresse l'église Sainte-Marie, le ton est bon enfant et très familial. Il est vrai qu'au premier rang de la foule, il y a le père Zacher, qui enseignait le catéchisme à Jean-Paul II enfant. Il y a aussi les camarades de football de Jean-Paul II qui sont là devant et qui regardent le pape descendre l'estrade. Cet après-midi, par contre, l'ambiance sera beaucoup plus solennelle. Vous l'avez dit, Jean-Paul II doit être à Auschwitz. Il doit se recueillir devant la cellule numéro 11 où mourut le père Maximilien Kolbe, ce franciscain qui a volontairement pris la place d'un autre déporté, père de famille, dans le blocus de la faim.
Chaque fois qu'il y a eu les deux grandes manifestations catholiques qui se sont tenus à Birkenau le 15 octobre 1972, par exemple, pour l'anniversaire de la mort de Maximilien Kolb, 90 000 personnes se sont rassemblées à Birkenau pour leur rendre hommage. Mais le plus intéressant, c'est quand le pape, qui venait d'être élu pape Jean-Paul II, visite, et dans la région, c'était sa région, hein, Karol Wojtyla, qui était né à Wadowice, et qui est tout près de Auschwitz, qui a travaillé dans les mines de sel qui se trouvent à Wielica, à proximité d'Auschwitz, va à Auschwitz. Il avait été évêque de Cracovie. Il est arrivé en hélicoptère à Auschwitz. Il a commencé sa visite par Auschwitz 1, la cellule de Maximilien Kolb. Il a déposé des fleurs dans ce qu'on appelle le mur de la mort, qui est le mur où on fusillait entre le bloc 10 et 11 à Auschwitz. Il a prié, la foule était énorme, plusieurs centaines de milliers, et surtout, il y a eu une messe. Et cette messe à Birkenau, elle est sidérante. Elle est sidérante parce que on a installé une croix, et à la place du Christ, 1979. Donc, on dresse l'autel, une croix, et au centre de la croix, un anneau de barbelé, la couronne d'épines du Christ. C'est sur les rails, et sur une des branches de la croix, une bannière qui ressemble à l'uniforme du camp, une bannière rayée, un triangle, et le triangle porte le numéro 16670, qui est le numéro de Maximilien Kolb.
Où mouraient 2000 personnes par jour. Accompagné par des prêtres en chasuble rouge, cela même.
J'ai vu un hélicoptère blanc descendre du ciel et atterrir entre les miradors, entre les baraquements, et avec la vue sur le bâtiment d'entrée en briques.
Elbieta Janica,
d'Auschwitz de Birkenau.
Historienne.
Donc le lieu d'extermination d'un million de juifs d'Europe, et puis une messe catholique célébrée pour près d'un million de fidèles, dans une scénographie tout à fait impressionnante, constituée par une croix couronnée d'une couronne de fil barbelé, donc faisant référence à la couronne d'épines. Et au centre de la couronne d'épines se trouvait un triangle rouge, hein, avec la lettre P désignant des prisonniers politiques polonais. Alors c'est une image qui m'a marquée à vie. Et aujourd'hui, Auschwitz-Birkenau, pour moi, est un endroit où reposent les cendres d'un million de juifs d'Europe, à l'ombre d'une croix, de la croix qui surplombe l'église de la mère de Dieu, reine de Pologne, installée dans un bâtiment à la silhouette identique à celle du bâtiment d'entrée de Birkenau. C'est un bâtiment qui était destiné à devenir la Kommandantur allemande nazie, mais ça n'a pas pu se faire. En raison de fin de guerre.
Je sais que ça s'est passé sur une croix énorme, oui, son discours à Auschwitz. Mais
vous vous souvenez si ça faisait débat dans la conversation ou avec vos amis, est-ce que ça allait de soi, cette visite du pape?
Pour nous, ça a été surtout la visite politique. C'était l'importance de cette visite. C'était pas la question du passé, c'était la question du présent. Tout le monde a vu que c'était en fait un coup dur contre le pouvoir communiste. Pour moi, à cette époque-là, la seule dimension, c'était pas religieux, mais la seule importance de cette visite, c'était en fait un coup dur contre le monopole du pouvoir communiste. C'est ça qui vraiment concernait les gens à cette époque-là, en 79. Moi, je définissais mon lycée. À l'époque, j'avais 17 ans, mais c'était cette dimension qui m'a préoccupé surtout.
Cette visite en Pologne de Jean-Paul II est considérée par les historiens du communisme comme très importante, puisque c'est elle qui aurait été un élément déclenchant qui va expliquer ensuite la mort du communisme, la fin du communisme.
C'est-à-dire mais c'est la réponse ou c'est la reprise en main de l'Église sur le lieu.
Je ne serais pas d'accord avec ce terme de reprise en main, parce que c'est une sorte de continuum qui est la mémoire polonaise d'Auschwitz, et au cœur de la mémoire nationale polonaise, il y a le catholicisme.
Et à Auschwitz, j'y ai vu quasiment des chapelles en l'honneur à un certain Witold Pilecki et une autre en l'honneur à Maximilien Kolbe, un antisémite virulent qui a eu une influence considérable sur les fidèles, pour avoir été le rédacteur en chef, le fondateur et le rédacteur en chef d'un mensuel intitulé « Le chevalier de l'Immaculé » et puis d'un journal, d'un quotidien intitulé « Le petit journal ». Et même aujourd'hui, il m'arrive de retrouver encore des greniers plein à craquer de cette presse qui était lue, qui était transmise de main en main et qui a porté ses fruits terribles et meurtriers pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il est mort à Auschwitz.
Il est mort à Auschwitz après avoir donné sa vie contre celle d'un autre prisonnier, d'un Polonais, père de famille. Donc effectivement, cet acte demeure dans toute sa grandeur, tout ce qui a précédé et tout ce qui porte toujours ses fruits empoisonnés n'est jamais mentionné. Aussi, enfin, dans cette espèce de chapelle au Saint-Maximilien, on pouvait voir tout le topo sur l'imitation du Christ et donc sur cette figure christique du sein de l'Église catholique. Ça m'avait beaucoup, beaucoup choquée.
Le Pelkom était antisémite. C'est très difficile de dire qu'il ne l'était pas, parce que il avait été un des fondateurs d'un monastère à Niepokalonov, cité de l'Immaculée, qui était le siège d'une entreprise de publication, parmi lesquelles un journal populaire antisémite. Donc, ça semble être une évidence. Et d'ailleurs, la béatification et surtout la canonisation qui date d'octobre 82, donc 3 années après la visite de Jean-Paul II à Auschwitz, n'avait pas fait l'unanimité et la Congrégation pour les causes des saints avait exprimé quelques réticences. Voilà, donc c'est ça l'histoire du Père Kolbe. Mais il y a d'autres grandes figures, je pense à Edith Stein, qui a bénéficié d'un petit mémorial qu'on ne voit pas à Birkenau, et surtout la campagne de croix à Birkenau, des centaines de croix qui ont ensuite été retirées, mais des croix avec... Je me souviens plus, moi je les ai vues les croix, donc ça devait être... probablement dans les années 90, mais une chercheuse polonaise a constaté qu'il y avait la même chose aujourd'hui à Treblinka. Donc l'idée de christianiser les lieux qui ont été, pas totalement, mais pour grande partie, les lieux de la destruction des Juifs d'Europe, c'est une tendance lourde et une tendance très forte.
En 1984, 8 carmélites s'installent dans un ancien entrepôt de Ziklombé, dans le camp d'Auschwitz. Le site est pourtant inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1979. Toute modification doit être approuvée par une autorisation spéciale, qui n'a été ni accordée, ni même demandée. Malgré les protestations des communautés juives, qui voient dans ce geste une énième dépossession, un énième déni, les religieuses se murent dans leurs convictions. À Auschwitz, le Christ est victorieux. En 1988, elles érigent dans la cour la croix de 7 mètres de haut qui avait été dressée à Birkenau en 1979, lors de la visite du pape Jean-Paul II. L'Église polonaise les soutient sans ambiguïté, ainsi qu'une grande partie des Polonais, qui quelques années plus tard, iront jusqu'à planter sur le site des centaines de croix. En août 1998, un retraité polonais déclarera à Libération : J'ai refait récemment le tombeau de ma femme. Cette croix ne servait plus à rien. Ici, à l'endroit du martyr des Polonais, elle permettra de défendre la religion de nos pères contre les attaques des ennemis de notre foi. Il aura fallu d'âpres négociations pour qu'en 1993, les religieuses quittent le bâtiment, sur ordre du Vatican. Entre-temps, Mgr Glemp, primat de Pologne, a eu l'occasion de s'épancher en reprenant une propagande antisémite familière. En s'indignant face à la christianisation du site, les Juifs, qui dominent les médias, ont eu des réactions anti-polonaises, déclare-t-il.
L'Église a bien perçu que le musée d'Auschwitz, que ce lieu, que ce site est chargé de sacralité. Que ce lieu est chargé de sacralité et que l'Église ne peut pas être absente d'un lieu aussi sacré où sont morts autant de gens et aussi autant de Polonais. Parce que l'Église polonaise est aussi d'abord polonaise.
Jean-Charles Chourek, historien.
Et donc c'était ils ont fait cette tentative-là et elle a réussi. Et pourquoi les communistes ont laissé entrer l'Église? Ben, probablement parce que les communistes commençaient eux-mêmes à s'effriter dans leurs convictions, dans leur idéologie. C'était le début déjà, au début des années 80, donc quelques années avant l'effondrement du régime. Visiblement, c'est un des signes pour moi de la perte de légitimité du régime. Donc, perdant leur légitimité, ils ouvrent la porte aux catholiques. Peut-être l'étaient-ils aussi un petit peu, ces communistes-là. Peut-être aussi avaient-ils été baptisés, n'est-ce pas? Donc voilà un peu quelque chose qui se manifeste. Voilà, et il existe encore un autre bâtiment qui est le bâtiment, l'ancienne Kommandantur. Vous avez dû la voir, qui est aussi devenue une église aujourd'hui, avec des croix dessus, des croix dedans, et où sont célébrées des messes régulièrement. Donc l'Église n'est jamais complètement absente du site, malgré toutes les protestations des organisations juives, du monde juif. L'Église n'a jamais lâché complètement sa présence à Auschwitz. C'est régulièrement la partie polonaise il y a plusieurs parties, il n'y en a pas qu'une. Enfin, l'Église est toujours présente sur le site d'une façon ou d'une autre.
Je voudrais faire un petit rajout sur cette messe de Jean-Paul II. Ce qui m'a sidéré quand j'ai découvert l'histoire de cette messe, c'est que dans le monde juif, indifférence totale. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé le moindre article qui dit c'est un scandale de faire une messe sur les crématoires de Birkenau, sur les rails de Birkenau, catholiques. Quelques années après, l'histoire du Carmel est là un tollé. Donc je pense que ça montre très bien, entre 79 et le début des années 80, la vraie prise de conscience de la place d'Auschwitz dans la solution finale et l'intérêt porté par les institutions juives en Europe, surtout Belgique et France d'ailleurs, et Israël à Auschwitz.
Ça faisait quand même quelques années qu'elles étaient là, et il y avait même un rabbin libéral américain qui s'était rendu à Auschwitz au mois d'août, juste avant, et qui avait voulu aller parler avec les religieuses, et les ouvriers qui étaient dans le couvent avaient déversé de la peinture et de l'urine sur lui et le groupe. Et c'était aussi au moment où Mgr Glemp, l'extrême droite polonaise, était candidat aux élections. Donc on avait décidé de remettre un document à Glemp, une lettre disant que nul ne pouvait confisquer la mémoire d'Auschwitz, etc.
Eva Weil, psychanalyste.
Et à l'époque, j'étais présidente d'une association qui s'appelait Le Prix de la Mémoire, que j'avais créée en 89, juste après Forisson, le négationnisme. Et à l'époque, j'étais aussi très proche de SOS Racisme, et puis bon, de toute une galaxie. Et finalement, on a décidé d'aller à Auschwitz le 1er septembre 39. Non, on est allé à Auschwitz le 1er septembre 89 avec Harlem Désir, Malek Bouti, Gebali, enfin tous les gens de SOS de l'époque, et Mgr Gaillot, qui était évêque d'Évreux. Et quand on est arrivé à Auschwitz, et on a voulu remettre notre document et aux religieuses et au groupe politique de Glemp. On a vu de loin des carmélites, des jeunes carmélites. Et quand elles nous ont vues, elles se sont sauvées. Donc c'était étonnant, les nonnes se sauvaient devant les juifs qui venaient. Et il y a eu, au bout de quelques instants, trois jeunes qui nous ont dit qu'ils étaient prêtres, mais en fait c'était des policiers, sont arrivés. Ils nous ont expliqué que là, il n'y avait pas de juifs à cet endroit. C'était un théâtre et qu'elles se sont installées dans un ancien théâtre et qu'il n'y avait absolument pas de juifs. Et que ce serait mieux si on partait. À ce moment-là, Gaillot a montré, vous savez, les évêques, ils ont une bague d'évêque qui est violette. Et donc, il a dit, je suis l'évêque, machin chose. Il leur a montré sa bague. Et ils lui ont permis d'entrer dans le Carmel. Mais comme il ne parlait pas polonais, et que j'étais la seule à parler polonais, je suis rentrée avec lui. Il m'a dit, venez avec moi. C'était un moment d'irréalité totale. C'est-à-dire, personne ne pouvait entrer dans ce Carmel. Et tout d'un coup, je me retrouvais dans cet endroit. Et je leur ai demandé pourquoi elles étaient venues là. Ah, nous sommes dans la main de Dieu et on fait tout ce que Dieu nous dit.
Manifestation, vous allez le voir, aux abords du Carmel d'Auschwitz. Des représentants de la communauté juive qui n'ont pas apprécié, c'est le moins que l'on puisse dire, les propos du cardinal Glimp ont franchi les limites géographiques de ce Carmel, vous le voyez là. Le primat de Pologne avait déclaré que le peuple juif nourrit un sentiment anti-polonais. Alors, réponse de la communauté juive, cet homme est un antisémite.
Antenne 2, 30 août 1989.
Alors, avec nous, Alexandre Minkowski, qui est médecin universitaire et dont les origines et la religion font que cette affaire le touche beaucoup.
Si vous voulez, moi, je suis d'origine juive polonaise. Mes parents ont fui la Pologne avant la guerre de 14 et mon père a fait la guerre, comme moi d'ailleurs, en portant l'étoile jaune, dans la mesure où beaucoup de mes ancêtres et mes parents eux-mêmes ont failli être massacrés au cours de pogroms bénis par l'Église catholique. Ça, c'est séculaire, c'est ancien. Par conséquent, on croyait que c'était oublié. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend que les Juifs possèdent les médias dans le monde entier. Dans la bouche d'un cardinal, au cours du grand pèlerinage de Częstochowa, qui est le Lourdes polonais, devant le président du Conseil, qui est catholique. Alors ça a une grosse importance, et je ne veux pas mêler Solidarność à ça. Justement au moment où la Pologne devient démocratique. Je voulais vous dire, entre autres, le parti communiste ne vaut pas mieux. Il reste 20 000 juifs polonais en Pologne, sur 3 millions autrefois, même ceux-là sont persécutés
et
traqués.
Le parti communiste polonais.
Oui, le parti communiste polonais, bien sûr. Je reprends deux propos. D'une part, les propos du pape, qui, il y a quelques jours, a dit qu'il fallait condamner l'antisémitisme, et d'autre part, les propos du cardinal Glemp, qui, quelques jours après, dit que les Juifs possèdent les médias dans le monde entier. Savez-vous que c'est exactement ce que j'ai entendu pendant 5 ans dans la bouche du maréchal Pétain, des collabos et d'Hitler ? C'est scandaleux. Il faut s'indigner de temps en temps. Bien. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas dire que l'Église catholique n'est pas antisémite après les propos qu'on a entendus. Ceci n'est pas grave. Moi, j'ai des amis catholiques, je connais des bénédictins. Ce n'est pas le problème. Il y a des jeunes curés qui ont sauvé les résistants, dont je suis. Par conséquent, ce n'est pas une affaire de polémique.
Ce n'est pas toute l'Église catholique.
Mais écoutez, si le primat de l'Église polonaise dit ça sans être désavoué par le pape, c'est un scandale. D'ailleurs, l'Église catholique fait souvent ça dans son haut clergé. Pendant l'occupation, il y avait le cardinal Suard qui restait insensible quand je suis venu lui téléphoner pour sauver 300 enfants qui ont été déportés dans le Marais, 300 enfants juifs. Pendant ce temps-là, il y avait le cardinal Saliège qui disait autre chose. Non, non, ça c'est la duplicité habituelle du haut clergé. Je condamne solennellement tout ce qui a été dit, et contrairement à ce que vous me dites, je dis l'Église catholique polonaise, et malheureusement les Polonais souvent, y compris le Parti communiste polonais, ont fait preuve d'antisémitisme, ils ont oublié les 6 millions de martyrs, c'est une honte, c'est un déshonneur pour l'Église catholique.
Monsieur Minkowski, pas besoin d'en dire plus. Les carmélites sur place à Auschwitz, elles disent qu'elles prient pour tous les morts d'Auschwitz, les juifs, pour les catholiques et puis pour tous les autres aussi.
Oui, mais elles ont bâti une grande croix devant. Je vais vous dire, moi je ne vais pas revendiquer en tant que juif qu'il ne faut penser qu'aux juifs, surtout pas. Ce que je dis, c'est que de construire une grande croix et un carmel là, c'est une provocation. Les juifs n'ont jamais réclamé qu'Auschwitz leur appartienne. Je crois qu'il faut respecter le silence, mais pas l'oubli. Et je trouve que toute cette histoire est monstrueuse. Si on ne la rappelle pas, dans quelques années, aux élèves à l'école, on enseignera que tout ça n'a pas existé. Moi, je maintiens ceci. C'est comme ça que l'antisémitisme se développe. C'est comme ça qu'il se continue. Et l'Église catholique polonaise vient d'y participer. Il faut que le pape la désavoue solennellement.
Bien. Merci, monsieur Minkowski.
Je me souviens maintenant de gens qui ont été offusqués en Pologne parce que c'était notre site. C'était comment on peut attaquer l'Église. C'était quelque chose d'impensable. Et comment les Juifs veulent maintenant, c'est de la voix que je me souviens, même les gens bien éduqués, c'était le Juif réclame ici la totalité de ces sites. Et finalement, c'est notre souffrance, c'est notre tragédie aussi. Donc il y avait déjà le début de cet déclenchement de cette bataille mémorielle qui, aujourd'hui, qu'on connaît d'aujourd'hui, en fait, qu'on voit de loin en Pologne. Mais c'était vraiment à cette époque-là que les Polonais, lorsque la Pologne s'est ouverte un peu vers l'Occident, tout à coup, les Polonais ont appris que personne à l'extérieur de la Pologne ne connaît rien sur la Pologne, autre que, par exemple, le soulèvement des ghettos de Varsovie. L'Holocauste, ce sont les gens, l'Auschwitz, ce sont les lieux que les gens connaissent. Pour les Polonais, c'était comme, je dirais, choc, parce que ce n'était pas notre histoire. Quand j'étais jeune, à Varsovie, personne ne parlait sur le soulèvement du ghetto de Varsovie. La seule chose qui était là, c'était le soulèvement des Polonais à Varsovie de août 1944. Tout à coup, les gens se font dire par les étrangers qu'il y avait un soulèvement qui est beaucoup mieux connu dans le monde, à travers le monde, et que le soulèvement polonais. Donc la même chose avec Auschwitz. En Pologne, c'était mal vu, vraiment. C'était un choc que notre histoire est vue de façon complètement différente par les étrangers.
L'endroit où j'allais était, bien entendu, celui des crématoires. Le premier auquel j'arrivais fut le numéro 2, je crois. Soufflé par les nazis comme le numéro 1 en face, et tous deux partiellement préservés. Il y avait là des buissons et des arbres, poussant au milieu de ces ruines. J'ai ramassé un fragment de brique, noir de suie. Puis je me dirigeais vers le crématoire numéro 1, dont l'explosion ne détruisit pas la chambre à gaz souterraine. Les escaliers qui y mènent existent toujours, avec le toit de béton effondré, tel le dos d'un tigre ou une vague océanique qui le recouvre. Je traversai le chemin que je n'avais encore jamais traversé, et je descendis, comme dans ces rêves récurrents où je descends ces escaliers avec tous mes amis et tous mes proches. C'est le rêve qui me ramène toujours là-bas, quand je sais qu'il n'y a pas moyen d'éviter cet endroit, que tout le monde est voué à y arriver parce que c'est une loi inaltérable du lieu, d'un lieu dont on ne s'échappe pas et rien ne permet d'imaginer une libération ou une fin, comme dans ces chimères enfantines, car une loi d'airain y conduit tout le monde et que personne ne sortira de là. Je savais aussi, parce que tout le monde est mort une nuit et que je suis resté, je savais qu'au dernier moment je serais sauvé. Non du fait de quelque mérite personnel, mais en raison d'un inexorable destin. Ce rêve nocturne me ramène toujours à la même loi immuable en vertu de laquelle je me retrouve à l'intérieur du crématoire et, par quelques voies détournées, par des canaux d'eau noire, des tranchées et des ouvertures cachées, je creuse sous les barbelés et trouve la liberté, embarque dans un train et, dans une gare désolée la nuit, un haut-parleur m'appelle par mon nom et on me reconduit à l'endroit auquel je suis destiné, le crématoire. Et j'ai beau savoir que je dois être pris, je sais toujours que je dois être épargné. C'est une sorte de cercle, un cycle de Tantale ou de Sisyphe, ou tous les autres mythes qu'on pourrait invoquer à ce propos, qui en un cercle vicieux sans fin, ramènent au même endroit. Je décidai de descendre les escaliers. Je sus que je devais d'abord monter sur cette vague de toit brisé. Attendis là, je ne sais combien de temps, attendis et finis par descendre les escaliers. Je descendis marche après marche en ce lieu où tous ces noms et images dont je me souvenais étaient descendus. Et tous ceux, des myriades et des myriades, que j'avais vus engloutis en fils sans fin dans les crématoires et dont j'imaginais ensuite qu'il s'élevait en feu et en flammes dans le ciel nocturne illuminé au-dessus des cheminées. J'arrivais enfin en bas. Impossible d'entrer dans la chambre à gaz elle-même, parce que le toit s'était effondré dessus et bloqué l'entrée. Je finis par faire demi-tour et remonter lentement les mêmes escaliers.
Not more than one quarter of the victims of the Holocaust died in Auschwitz.
La majorité des victimes juives du nazisme ne sont pas mortes à Auschwitz.
About right, maybe a bit less than that.
Jonathan Weber.
I mean, one sixth, perhaps, anywhere between one sixth and one quarter, and one quarter.
Je dirais que les Juifs morts à Auschwitz représentent peut-être un sixième ou un quart des victimes juives de la Shoah.
Are still, even to this day, not really properly cataloged.
Les charniers qui jonchent l'Europe de l'Est aujourd'hui encore ne sont pas correctement recensés ni honorés.
Je sortis des ruines et me dirigeais vers la sortie de Birkenau, la même porte de briques par laquelle j'étais entré. Je rejoignis le chauffeur et sans un mot lui tendis mon vieux Leica, qui m'avait accompagné dans mon séjour à travers ces paysages. Il prit une photo de l'entrée avec ses portes en maille de fer et, devant, moi coupé en deux. Après quoi, sans mot dire, nous quittâmes les lieux. À bord de l'avion qui tanguait, c'était un petit avion. J'écrivis des choses folles dans mon journal qui ne me quitte jamais. Je les écrivis aussi dans une lettre. Je ne sais si la lettre existe encore. Ainsi commençais-je à affronter mon retour, non pas en rêve, mais consciemment, vers la métropole de la mort.
En 1989, une autre génération, d'autres voix, demandent à compter dans l'organisation du site. Le régime communiste vient de s'effondrer. En Pologne, des élections partiellement libres sont organisées. En accord avec le nouveau Premier ministre, un groupe d'intellectuels juifs se réunit pour réfléchir à ce que ce lieu devrait être. C'est ainsi que certaines vérités historiques seront rétablies. Le chiffre des 4 millions de victimes gravées sur le monument de Birkenau disparaît. Le texte énonce désormais que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais, pour l'humanité, un cri de désespoir et un avertissement. Il est également demandé au musée d'énoncer clairement que 90% des victimes d'Auschwitz étaient des juifs et que seuls les juifs et les tziganes ont été condamnés à la torture et à la mort pour avoir été juifs ou tziganes. C'est dans ce même élan que va naître le Conseil international d'Auschwitz en 1990, une instance qui se réunit pour réfléchir aux multiples problèmes que ne cessera jamais de poser le site en termes d'exposition, de conservation et d'éthique.
Alors, je pense que Jonathan vous l'a expliqué. Jonathan Weber est anthropologue. Et il décide qu'il va faire de l'anthropologie sur le site. Un type d'anthropologie qui est, j'ai envie de dire, classique, c'est-à-dire les publics des musées. Bon, moi, je me rappelle surtout de deux choses, hein. Les gens en short et en débardeur qui sucent leur glace à Auschwitz 1 et les diapositives de paysans polonais qui font les foins à Birkenau. Et pour moi, c'est un choc, c'est-à-dire c'est un choc pré-visite à Auschwitz, c'est-à-dire que brusquement, ce lieu qui existait comme une espèce de trou noir, c'est un lieu où il y a de la vie. C'est-à-dire, c'est un lieu de mort, mais c'est un lieu vivant. Et c'est ce qui va déclencher chez lui, je pense, le désir de réunir un groupe pour réfléchir. Donc, on a ce premier colloque. Donc, moi, j'étais vraiment jeune. J'étais prof à l'époque au lycée Voltaire.
C'est 1990.
C'est 1990, oui. Et puis ensuite, il nous propose de continuer notre réflexion. Et là, on fait une déclaration, la déclaration de Yarton, avec un certain nombre de recommandations extrêmement pratiques. Par exemple, la visite doit commencer par Birkenau et pas par Auschwitz. Il faut qu'il y ait une navette qui permette d'aller dans les deux camps et qui fasse que les visiteurs d'Auschwitz aillent aussi à Birkenau. Une autre mesure qui a été appliquée, quand on est à Birkenau, bon, Birkenau c'est un lieu complexe quand on y réfléchit, parce qu'on a d'abord, j'ai envie de dire sur le devant quand on rentre, le camp de concentration. Et notamment, quand on rentre sur la gauche, le camp de femmes, où il reste encore des baraques en pierre. Et puis, on arrive dans une zone où il y a un rideau d'arbres qui a été planté, hein, là, et on arrive dans la zone de mort. Et la zone de mort, il y a les crématoires, il y a le sauna, et il y a un énorme espace qui est au fond, sur la droite, où il y avait 30 baraques, qui étaient les baraques du Canada, argot du camp, pour le Canada, c'est le Pérou, hein, chez les Polonais, le Canada, c'est le lieu de toutes les richesses, et où étaient entreposés tout ce que les détenus avaient apporté, donc 30 baraques. Au moment d'évacuation du camp, le feu est mis à ces baraques. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y avait un tel amoncellement, notamment de couverts, de gamelles, de choses métalliques, que la terre rend des fourchettes, des cuillères, des bouts de gamelles. Et tout ça a été épars. Et ce que conseillait la déclaration d'Yarton et qui a été appliquée, ça a été de construire des petits trucs en plexiglas là, pour protéger les objets. C'est-à-dire que les objets qui sont tournés, qui sont retrouvés, ils sont mis sous cloche, si je puis m'exprimer ainsi.
Well, first of all, we needed to have a proper council. There was no council in 1990. It was my idea to create.
D'abord, nous devions avoir un conseil.
To control what was going on.
Il n'y avait pas de conseil en 1990. J'ai voulu en créer un pour avoir un regard sur ce qui se passait. J'ai écrit au ministère de la Culture à Varsovie pour dire qu'il me semblait qu'il devait y avoir un conseil international réunissant des intellectuels juifs pour réfléchir à ce qui devait être fait dans ce lieu. Nous sortions d'une période de polémique qui avait duré presque 10 ans, autour de la présence d'un couvent de carmélites dont on a dit qu'il s'était installé dans Auschwitz. C'était à Auschwitz et ce n'était pas à Auschwitz. C'était dans un ancien théâtre, à la limite du camp principal. D'une certaine façon, c'était hors du camp, parce que c'était hors de la limite entourée par les barbelés. Mais en effet, même s'il datait d'avant la guerre, cet ancien théâtre avait été utilisé par les nazis pour stocker les boîtes de Zyklon B. À mes yeux, il était parfaitement déplacé de la part des Juifs de s'élever contre la décision de l'Église catholique d'établir un couvent dans ce lieu.
For many reasons. First of all, there were 75,000 Catholics.
Parce que, d'une part, plus de 70 000 Polonais catholiques ont été assassinés à Auschwitz. Pourquoi les Juifs s'opposeraient-ils au désir des catholiques de prier pour les âmes de ces Polonais ?
Peut-être parce qu'à ce moment-là, il y avait encore très peu de mentions des Juifs à Auschwitz.
C'est une exagération et une mythologisation. Bien sûr qu'on savait que des Juifs avaient été assassinés à
Auschwitz.
Sur le mémorial de Birkenau figuraient déjà des dalles en hébreu et en yiddish.
I have to say, it was in France that they came with this lie.
Je dois dire que c'est la France qui a diffusé ce mensonge selon lequel les Juifs n'étaient pas mentionnés. Certes, ils n'étaient pas mentionnés comme ils auraient dû l'être. Il n'était écrit nulle part que 90% des victimes étaient des Juifs, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que les Juifs n'étaient pas mentionnés.
Auschwitz a une signification.
Le sens d'Auschwitz est universel. Ce sens n'est pas destiné aux seuls Juifs ou aux seuls Polonais. Je crois qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce dont on a toujours eu besoin, c'est d'une culture de la guérison.
In which people realize that it's a universe of mutual responsibility.
Où les gens comprennent que nous sommes tous responsables les uns des autres.
It's not only Jews who are supposed to mourn the dead. It's the world has to mourn what happened in Auschwitz to human beings.
Ce n'est pas aux seuls Juifs de pleurer les morts. Le monde entier doit pleurer ce qui est arrivé à l'humanité à Auschwitz.
Merci à Agnieszka Grudzińska, professeure émérite de la Sorbonne Université, auteure et traductrice. Jan Grabowski, historien, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa, spécialiste de la Shoah en Pologne. Merci à Elbieta Janika, professeure à l'Institut d'études slaves de l'Académie polonaise des sciences, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme. Jean-Charles Chourek, historien, directeur de recherche émérite au CNRS. Jonathan Weber, anthropologue, ancien membre du Conseil international d'Auschwitz. Eva Weil, psychanalyste. Merci à Annette Viviorka, historienne, directrice de recherche au CNRS, à l'origine de cette série d'émissions. Texte extrait de Paysages de la métropole de la mort, d'Otto Dov Kulka, lu par Pierre Weiss. Merci à Gaël Gillon, voix française de Jonathan Weber. Et merci au Musée mémorial d'Auschwitz-Birkenau. Documentation Anne-Lise Signoret, Antoine Villoz. Archivina Delphine André. Prise de son Benjamin Reyes, Marie-Claire Oumabadi, Ludovic Auger, Sébastien Royer, Élise Le. Mixage Manon Houssin. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Auschwitz-Birkenau, le lieu témoin. Une série de Béatrice Leca et Yaël Mandelbaum.